With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, Super Laser Punch, Super Laser Punchy. Je sais pas si je suis très fier de cette intro, en fait. C'est un petit peu cringe, peut-être. Mais ça fait tellement plaisir de parler japonais, Johan. J'ai jamais l'occasion.
Mais oui, je sais.
Donc, tu vois.
Moi, je me retiens parce que.
Pardon ?
Moi, je me retiens, hein, perso.
Oui, parce que... je comprends. Et clairement, Super Laser Punchy, c'est du japonais classique, tu vois. C'est Genji Monogatari parlait comme ça, c'était exactement ça. Je suis Patrick, bonjour à tous, on est dans Super Laser Punch. Et dans ce podcast, on parle essentiellement de trucs Marvel, même s'il y a peut-être Obi-Wan Kenobi, peut-être on pourrait en parler un petit peu quand ça commence, dans pas longtemps. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, bah, c'est très bientôt.
Ah oui, donc on verra. Ouais. Bon. Peut-être qu'on devrait changer le nom en Disney Laser Punch, ou peut-être. Eh bien, on fait aussi des trucs. Genre ouais. Attends, c'est quoi là? Il y a Avatar qui va arriver, je sais pas si. Est-ce qu'il y aura des punchs et des lasers?
Il y aura des punchs, je pense quand même.
Des punchs. Bon, on verra. En tout cas, aujourd'hui, on a deux choses dont on veut vous parler, les deux derniers épisodes de la série Moon Knight. Et, bien sûr, le plat de résistance, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Est-ce que je le fais en japonais, celui-là? Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ça doit être à peu près ça.
C'est de la musique dans mes oreilles.
Le Japon nous manque, hein, vous nous excuserez. Ouais. Et bah oui, c'est évidemment le plat de résistance, le film, mais il y a quand même avant ça la série. On essaiera de mettre dans les notes de l'émission les timecodes pour si vous voulez directement aller à Doctor Strange. On verra si on peut. Mais je me demande si pour Moon Knight, on ne peut pas faire directement une partie super spoiler. En 30 secondes, une minute, ce qu'on a pensé sans spoiler. Et puis, on passera au spoiler pour Moon Knight. Et puis, une partie un petit peu plus conséquente de sans spoiler pour Doctor Strange. Et puis après, les spoilers pour Doctor Strange. Est-ce que ça te va, ce programme, ce menu?
C'est très bien, c'est très très bien. Parfait.
Et ben alors, dans ce cas, on se lance. Moon Knight, épisode 4 et 5, et puis un petit peu l'impression sur la série en général, sans spoiler, Johan, go.
Eh ben, écoute, moi, j'ai plutôt aimé la fin de Moon Knight.
Sérieux ?
À mettre vraiment à côté, en fait, de la grosse déception qu'étaient les 4 premiers, et de ce qu'on en a pensé, enfin, de ce que moi, j'en ai pensé, que j'avais pas du tout aimé. Et dans ce contexte-là, j'avais trouvé le 5... on va dire toujours un peu problématique, mais au moins je commençais à m'intéresser au personnage avec pas mal de choses sur le personnage, ouais. Pas mal
sans spoiler,
de,
hein, on spoil pas là.
Ouais, sans spoiler, je sais bien, sans spoiler, ouais. Donc voilà, je commençais enfin à accrocher à ce personnage et justement je commençais à pardonner un petit peu. Spencer, voilà. Et un sixième où là, c'était du grand n'importe quoi et où j'ai accepté. Quoi. J'ai dit ok, je prends. Il y a des grands combats, donc divertissement total. Et du coup, j'ai passé un bon moment, on va dire relatif. Sur les deux derniers épisodes, ça reste un bilan quand même pas incroyable, hein, le total de la série. Mais voilà, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre sur la fin et c'est très bien comme ça pour moi.
Je pense que le terme que je retiens, c'est « j'ai accepté ». C'est ça. Tu dis pas je me suis résigné, mais tu sais, il y a cette phrase de la Bible qui est une phrase de comment dire extrêmement philosophique et extrêmement forte, qui dit Seigneur, donne-moi la force de changer ce que je peux, d'accepter ce que je ne peux pas et de comprendre la différence entre les deux. Je paraphrase. Donc toi, t'as compris que
voilà,
tu pouvais pas le changer, donc tu dois l'accepter.
J'ai arrêté de lutter, exactement.
C'est ça, très bien.
Du coup, toi, Patrick, alors qu'est-ce que t'as pensé, toi, de Moon Knight ?
Écoute, j'ai l'impression que je me suis moins résigné que toi. L'épisode 5, comme vous vous en souvenez, à la fin de l'épisode 4, je disais, donc là, je suis très intrigué, je suis curieux, je reprends espoir. L'épisode 4, c'était pas, ça m'a pas fait genre monter ma hype ou descendre, c'est genre... « Ok, d'accord, on va voir ce qui se passe, machin. Genre, bon, c'est intéressant, c'est un petit peu, ça part dans une autre direction, mais c'était nécessaire, je pense. Et le 6, en fait, j'ai trouvé qu'il n'arrivait pas à stick the landing. J'ai trouvé qu'il était confus et que ça donne pas un truc... et c'est peut-être un thème, je suis peut-être un petit peu un Grinch aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, mais je trouve que c'est un peu trop... C'est pas assez clair. » Et ça part un peu dans tous les sens et on n'a pas de... En fait, on a pas de réponse, c'est juste que ça revient un petit peu en arrière, je trouve. Donc, je l'ai trouvé très moyen, quoi. Très moyen. C'est pas aussi mauvais que ça aurait pu ça me laissait penser à la fin de l'épisode 4, on va dire, presque à la fin. Mais je trouve que ça ne réalise pas la promesse qu'on avait à ce moment-là. C'est juste, il n'y a pas l'intelligence d'écriture du scénario qui aurait répondu à la promesse du personnage, quoi, au final. Et peut-être qu'on peut en parler un petit peu plus en détail dans la partie spoiler full. Donc dans l'ensemble, la série, je la trouve complètement dispensable.
Ouais. Ouais, moi je pense que c'est la moins bonne qu'on ait eue jusque-là, quoi, en fait. Hein.
Ouais. Oui, parce qu'il y avait en fait dans Falcon and Winter Soldier, qui a eu des gros soucis de production et d'écriture, il y avait quand même des moments, alors je ne vais pas dire de fulgurance, mais des moments vraiment hyper intéressants, un petit peu osés, un petit peu courageux, qui venaient remonter un petit peu l'ensemble. Là, ce qui est bien, c'est bien, genre, on va dire, c'est un 11 ou 12 sur 20 à peine passable. Et ce qui n'est pas bien, descend à 4, quoi. Donc, je suis plus déçu que pas déçu. Surtout que le personnage avait une richesse potentielle qui est exploitée de manière très brouillonne, en fait. C'est ça, mon problème. C'est qu'ils ont pris les éléments... Et ils n'en ont pas sorti quelque chose de cohérent et d'intéressant. Ils ont juste pris les éléments, ils les ont posés sur la table et ils vont dire « Ok, on va faire un film avec ça ». Mais ils ne les ont pas agencés comme il fallait. Donc, bon. Partie, donc, spoiler maintenant pour Moon Knight. Donc, 3, 2, 1, spoiler Moon Knight. Si vous n'avez pas vu Moon Knight, je ne sais pas ce que vous foutez là. Mais bon, vous pouvez passer à la partie non-spoiler Doctor Strange. Johan, partie spoiler.
Ouais.
Alors, épisode 4, c'est vraiment, on comprend d'où vient Steven dans la vie de cette personne affectée par un trouble dissociatif de l'identité.
Ouais, épisode 5, du coup.
Pardon. Épisode 5, effectivement. Et épisode 6, du coup, c'est la conclusion où on a le gros épisode de combat avec Leila qui est un super-héros, Steven et Mark qui travaillent ensemble, qui sont deux Moon Knight différents, le grand combat de kaiju égyptien, voilà. Tout ça, c'est la grande scène d'action. Donc épisode 5, épisode 6, ça t'a satisfait, toi, donc, cette partie avec...
Pour le coup, l'enfance de Marc et tout ça, j'ai trouvé ça sympa. Alors, je suis toujours pas ultra convaincu, moi. Alors, j'ai vu pas mal d'éloges sur le jeu d'Oscar Isaac. Je suis vraiment pas du tout impressionné par sa prestation dans la série globale. Mais j'ai fini par m'attacher à ces deux facettes-là. Du coup, son enfance et tout, bon, un peu dramatique, c'est un petit peu cliché, mais je trouvais que c'était assez bien fichu en fait, avec le jeu des souvenirs et passer d'un souvenir à l'autre, etc. Après,
pour pas répéter toute la partie sur après le bateau. Pour pas répéter après toi, cette partie, je l'ai trouvée pas mal foutue. Effectivement, bon, c'est un petit peu, ça tire ta larme, mais j'ai trouvé très émouvant cette idée de le choc émotionnel tellement énorme et l'absence de support familial, à la fois par sa mère qui est carrément accusatrice et agressive et son père qui est complètement passif, que il n'a pas d'autre choix psychologiquement, émotionnellement, que de séparer sa vie en deux pour pas se briser, tu vois. Donc, et j'ai trouvé ça pas trop mal foutu. Et j'ai trouvé que c'était une justification qu'on pouvait attendre peut-être, ou ce genre, ce registre, pour le fait d'avoir une identité dissociée, ça fonctionne. Et j'ai trouvé ça pas mal fait, mais c'était pas non plus... tu vois, c'est comme quand je disais « Ah, ok, bon, d'accord, très bien, que vont-ils en faire ?» Tu vois, c'était genre, c'était un bon setup, bien réalisé, pas... dans le... Comment dire, c'était un à côté très important dont il fallait faire quelque chose ensuite. Et bon, à côté de ça, il y avait toute l'histoire de... comment ça s'appelle, Tewalet, qui les amène effectivement sur le bateau dont tu allais parler.
Et à vrai dire, je suis même toujours pas sûr d'avoir bien compris en fait exactement comment tout ça s'agence entre justement l'hôpital ou la réalité ou le bateau. D'ailleurs, le bateau que je trouve très moche, hein, avec c'est beaucoup d'effets spéciaux. Enfin, je trouve pas ça très élégant toute cette partie là, quoi. Moi, j'ai toujours un peu des questions, hein. Je suis pas sûr que ça ait été effectivement très malin comme tentative de mélanger justement qu'est-ce qui est dans sa tête, qu'est-ce qui est dans le réel. Et je sais même pas s'ils ont essayé de l'expliquer entièrement ou si c'est volontairement flou et brouillon. C'est un peu compliqué quand même, hein, peut-être que c'est clair pour toi, je sais pas.
Bah non, justement, c'est ça qui me gêne en fait au final dans la série, c'est que ils prennent la direction d'une explication, c'est dans sa tête, il s'est créé ses deux identités et il a pas tenu le choc émotionnel et donc il s'est créé un monde fantasmé à lui, peut-être même inspiré par les histoires de super-héros, et il est effectivement dans un... Et peut-être que Mark Spector était effectivement un soldat, tu vois, un mercenaire, et qu'il a essayé de trouver des trésors de l'Égypte antique, et que Dr. Harrow l'a poursuivi, et qu'il l'a amené dans un hôpital psychiatrique pour essayer de tirer une information qui était enfermée dans sa tête, dans son monde fantasmé qu'on voyait. Et moi, ce que j'espérais, c'est que d'une certaine manière, on ait... un parallèle qui était mis entre la réalité et ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, tu vois, ou même sans, s'il ne le montrait pas, qu'on comprenne que, peut-être que, comme je le disais à l'épisode précédent, des événements comme ça se sont produits, et lui les comprend, les a vécus de cette manière fantasmée avec des histoires de super-héros et de dieux et de machin, mais Dr. Harrow, c'est un mec qui cherche un trésor égyptien, tu vois. Et qui du coup explore la psyché de Mark Spector / Steven Grant pour le retrouver. Et à la place, ce qu'on a eu, c'est une sorte de truc à la Lost où tu mets des fumées noires et des ours polaires sous l'île tropicale et tu as plein de trucs qui n'ont... Enfin, c'est pas vraiment que ça a aucun sens, c'est que si dans le monde de Marvel, il y a des dieux égyptiens, oui, c'est effectivement comme ça que ça se passe. Mais du coup, ça veut dire que dans la réalité de ce monde-là, il y a des kaijus de dieux égyptiens qui se sont battus au Caire.
Mais c'est visible que par ceux qui sont les avatars des...
Ouais, mais même pas vraiment, parce qu'il y a eu tous ces combats et on a vu que comment dire, comme on le disait au premier compte-rendu, le chien mort-vivant là, qu'il pourchassait dans le musée à Londres, il avait un effet physique sur le monde, dans son fantasme à lui. Tu vois, dans ce, et on a appris ensuite que c'était son fantasme à lui. Donc on s'est dit, ah ouais, ok, en fait, c'est juste ses fantasmes. Mais non, ils ont un effet physique sur le monde. Ils, on les voit peut-être pas ou pas bien, mais quand ils rentrent dans une bagnole, la bagnole, elle tu vois, elle se décale de 3 mètres, quoi. Donc ils ont un effet physique sur le monde, et ces kaijus énormes qui se battent, bah, il s'est passé un truc dans le monde réel. Mais même si c'était ça l'explication, j'aurais dit, ok, bon, bah, il y a des dieux égyptiens maintenant dans le monde de Marvel, ok, pourquoi pas. Mais c'est même pas ça. Ils veulent mettre des tiroirs dans les tiroirs des tiroirs avec des niveaux d'inceptionnisation de « ah ouais, c'est le quatrième niveau du rêve », surtout à la fin quand on montre que « ah oui oh, », genre, il conclut et on, déjà, on ne sait pas trop qu'est-ce qui était du rêve, qu'est-ce qui n'était pas, ce qui est décevant parce que c'est vraiment l'orfèvrerie de l'écriture du truc qui aurait pu te montrer une, limite, une délimitation claire entre tous ces trucs. Mais en plus de ça, à la fin, ils te mettent Dr. Harrow qui... Ah non, mais lui aussi, il était dans un institut psychiatrique et il est fou. Et du coup, on a Jake, qui est la troisième identité de Mark, qui apparaît tout à coup. Et lui, il est encore un avatar de Khonshu et il parle italien. Et en plus, tu sais, c'est le genre de truc. Il rentre dans l'hôpital. Et il y a l'infirmière qui est censée amener Harrow dans sa chambre. Et il y a juste un mec qui arrive avec un accent italien qui dit « Non, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Et
elle dit « It's a me, okay. Mario.
It's a me, Jake Lockley. » Et il le prend. Tu sais, il le prend et dit « Mais quoi ? C'est, pourquoi on avait besoin de ça ?» Et en plus, il le prend, il le sort, il le tue. Et puis on a Khonshu qui acte. Et du coup, tout est confus. On ne comprend rien. J'ai entendu des gens dire... le jeu de Oscar Isaac, je le trouve pas trop mal. Et quand il change de l'un à l'autre, ça passe bien. Franchement, il est... Mais c'est tellement gimmick. Et j'ai entendu des gens dire qu'ils avaient apprécié Moon Knight, qu'ils adoraient la série, que les combats étaient super intéressants. On peut revenir sur la partie combat aussi à un moment, sur la partie action. Mais je mettrais au défi n'importe qui d'expliquer le monde de Moon Knight. Parce que normalement, si je me souviens bien, ça fait longtemps que j'en ai pas lu des Moon Knight, mais normalement, c'est un vrai vigilante, un vrai super-héros qui a pas de super-pouvoir pour de vrai, qui a des gadgets, qui est un petit peu le pendant de Batman, mais qui est aussi convaincu qu'il est l'avatar de Khonshu et qui est un genre qui a tous ces troubles psychologiques dont on parle avec les personnalités multiples, etc. Mais il existe dans le vrai monde, il a un costume avec des gadgets, et il existe dans le vrai monde. Et c'est lui qui pense qu'il se bat pour Khonshu, avec ses problèmes psychologiques. Ça aurait été intéressant à développer comme personnage, je trouve. Mais là, ce qu'on a, c'est... Bah, on n'en sait rien. On ne sait pas. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Alors, peut-être que tout est dans sa tête, mais alors, dans sa tête, oui, il était effectivement dans l'hôpital de Harrow et il décide à la fin, ah, mais moi, je préfère sauver le monde, ce qui est d'ailleurs en... Tout ça, si ça avait été un petit peu développé, expliqué, pourquoi pas. Mais je décide de sauver le monde, ok, donc il repart dans son monde fantasmé, très bien, et il est dans l'hôpital de Harrow, et tout ça, ça se passe dans sa tête. Sauf qu'après, ils se sont sentis obligés de mettre image de enfin cette pose générique qui est, j'imagine, peut-être dans sa tête il imaginait que Harrow était aussi un patient à l'hôpital, mais on sait pas trop. Et à la fin, tu vois, c'est comme le chaos sur les réseaux sociaux avec les gens qui viennent te dire le contraire de ce que tu dis. À la fin, tu dis bon bah je m'en fous, ok, bah, rien n'a d'importance, rien ne tient debout, on s'en fout et je balance tout, quoi. Et c'est cet effet que ça me fait, c'est genre bon bah on s'en fout, alors rien n'est vrai, tout est vrai.
Pour moi, l'explication la plus simple et la moins profonde et je pense la bonne, c'est-à-dire que tout était vrai sauf la partie effectivement où il se fait tuer et donc après il est dans sa psyché, dans son hôpital psy à lui, le paradis, puis finalement ouais, il se réconcilie avec lui-même et puis il retourne sauver le monde, etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment...
Il y a des dieux égyptiens dans le monde du MCU.
Je pense que je vais choisir l'explication pour le moment la plus simple, parce que j'ai pas l'impression qu'ils aient fait d'efforts particuliers pour faire un truc avec plusieurs couches, etc. Donc je pense que je partirais de là.
Mais qu'est-ce qui se passait dans l'hôpital, alors?
Tu veux dire à la toute fin ou...
Non, pendant tout le moment où on voit, quand on découvre qu'en fait, il est dans un hôpital. C'est quoi, ça?
Ça, pour moi, c'est justement, il est sous le choc parce qu'il vient de se faire tirer dessus et il est dans son
ah, donc c'est ça qui est
intérieur.
Pas vrai, c'est ça qui est son...
Voilà, c'est ça. Donc pour moi, ça serait ça l'explication, puis c'est l'occasion justement de se parler à lui-même, de se faire, de se réconcilier, ouais, de résoudre sa balance. Et ça, du coup, pour moi, c'est un moment qui m'a un petit peu intrigué au début, parce que du coup, tu sais, il y a le moment où on dit « Ah, bah, sa balance est enfin, enfin stable » et tout ça, alors qu'il y a toujours Loki qui est quelque part dans le coin. Quoi.
Loki, c'est pas, c'est tu pas, peux dire Jake
Lock Jake Lockley, c'est ça.
C'est la troisième identité, pour ceux qui savent.
Ouais, voilà, c'est ça, la troisième identité est toujours là, donc tu te dis « Bah non, bah, il a pas de balance, quoi. » Mais si tu te ramènes ça à sa réflexion à lui, il sait pas qu'il y a Jake Lockley, et du coup, ça y est, il a fait la paix avec son autre lui, et voilà. Ouais, donc pour moi, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il ne faut pas non plus leur prêter le talent d'avoir réussi à faire un truc aussi profond et machin. Mais effectivement, ça posera des questions lorsqu'il s'agira un jour de mélanger ces univers avec le MCU. Je ne sais pas s'ils le feront, hein. D'ailleurs, c'est pas non plus garanti. Mais pour
il y a un panthéon de dieux égyptiens, pourquoi pas, tu vois, dans le MCU, voilà. on est plus à sa presse, tu veux. Voilà.
Bah, ouais.
Ok.
Il y a les dieux grecs qui vont arriver, donc c'est pas non plus choquant en soi, quoi. Mais effectivement.
Non, c'est sûr, mais c'est pas choquant, mais j'aurais trouvé ça tellement plus intéressant que ce soit effectivement un personnage qui a des fantasmes paranoïaco, tu vois, que
moi
ça
aussi,
soit...
en fait, quitte à découvrir ces histoires que les dieux qu'on pense tous être dans sa tête sont en fait vrais dans la saison 2 ou 3, tu vois, mais qu'au début, ça soit vraiment un truc un peu plus terre-à-terre, ça m'aurait un peu plus intrigué, je pense. Donc juste pour revenir sur les combats de fin, je trouvais quand même ça assez sympa, moi, le combat de Kaiju, ça... Ouais, en fait, c'est ça. C'était le moment où je disais, bon, ok, ça y est, c'est n'importe quoi. Il y a Leila qui est en Wonder Woman égyptienne, avec d'ailleurs un costume qui ressemble vachement à celui de Wonder Woman du dernier film, là. Qui d'ailleurs, c'est limite un peu grossier, parce que tu vois, justement, elle est en super-héroïne et tu dis, ah yes, c'est cool de voir un personnage comme ça un peu... de la diversité en super-héros, badass et tout, et se sont sentis obligés de le formuler de manière un petit peu concon. J'ai trouvé une femme égyptienne super-héros, c'est incroyable. Enfin, tu vois, il y a eu ce moment-là, je fais oui,
c'est
mais
un peu,
sinon, voilà, sinon.
Ça fait un peu penser à la scène de Endgame quand il y a toutes les femmes super-héros qui arrivent et qui disent « Ah, oh, she's not alone !» C'est genre « Regardez, on a une femme !» Bon, enfin, c'est un peu moins cringe, mais bon... Ouais, c'est pas très élégant, on va dire, mais pourquoi pas. Disons qu'ils auraient pu trouver un moyen un peu plus subtil de faire passer ce message-là, mais ok. Oui, les scènes d'action, elles sont sympas. Le fait de voir travailler Steven Moon Knight et Mark Moon Knight ensemble, pourquoi pas. Je trouve que, tu sais, tous ces trucs arrivent un peu trop vite, comme souvent dans les séries, genre... L'idée qu'il doit se réconcilier avec son autre identité et qu'il veut aller même le sauver parce qu'il était là pour lui pendant toute sa vie et c'est lui qui l'a protégé. Tout ça, ça peut marcher, ça peut être émouvant, mais on n'a pas le temps de rentrer dans cette émotion. Et un petit peu pareil avec Steven qui a débloqué ses habilités. Genre, il dit « Allez là, tu vas voir, j'ai trop hâte de te montrer les capacités que j'ai débloquées. » Mais d'où ok, parce que vous avez votre cœur qui s'est uni et équilibré, donc toi aussi, tu as accès au pouvoir de Moon Knight. Ok, c'est pas illogique, mais t'as pas le temps de comprendre que c'est ce qui s'est passé. C'est juste, ok, on va se battre, machin, c'est... Bon, ok, d'accord.
Mais bon, ouais, le switch de costume pendant les combats, je trouve ça vraiment, vraiment cool.
Ouais.
Mais ouais, comme tu disais, j'aimerais bien qu'on apprenne dans la suite ou plus tard qu'en fait tout ça c'était complètement dans sa tête et qu'en fait il a juste un costume qu'il a fait lui-même et que du coup il a absolument pas de pouvoir et ce genre de choses-là. Je crois que ça serait plus intéressant à voir qu'un nouveau héros mystique en plus, parce qu'on commence à en avoir pas mal avec des pouvoirs vraiment surnaturels. Tu vois, en fait, je trouve ça dommage parce que moi, je suis assez attaché justement aux personnages de comics, aux héros de comics qui n'ont pas de super pouvoirs et qui justement sont plus terre à terre ou alors des pouvoirs beaucoup, beaucoup moins impressionnants.
Ouais.
Et du coup, à chaque fois, là, le peu qu'on avait l'occasion d'avoir comme Shang-Chi, finalement se retrouve avec des pouvoirs cosmiques, divins, etc. Et du coup, bah, ça m'attriste un tout petit peu, quoi.
Ouais. Bah écoute, peut-être qu'ils rattraperont ça dans la saison 2. Alors, j'ai entendu des sons de cloche discordants. Certains disaient qu'il n'y aura pas de saison 2, qu'ils ont tout annulé. Et d'autres disaient plus récemment, ah, mais c'est une season finale et pas une série finale. Donc, peut-être que saison 2, machin, je ne sais pas, on verra. Mais oui, bah, on verra, on verra. Je crois que c'est ma conclusion à cette série. Bon, on verra.
Très, très bien.
Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. On va faire une première partie sans spoiler,
ouais.
Et puis une deuxième partie avec spoiler. C'est la suite de Doctor Strange 1, mais c'est aussi la suite du MCU. Hein. Ça suit, on va dire, ça suit vraiment WandaVision et, enfin, Doctor Strange 1, mais encore plus WandaVision et un petit peu l'idée générale de cette phase du MCU qu'il y a plein de multivers partout, mais on n'a pas vraiment de suite directe plus que ça. Donc, réalisé par Sam Raimi, pour lequel, un aspect pour lequel j'étais un tout petit peu inquiet parce que de ce que je me souvenais de Sam Raimi, j'étais pas hyper, hyper fan de sa réal. Et puis avec donc Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, etc., etc. Plusieurs, enfin, c'est les deux personnages principaux. Enfin, donc Doctor Strange et Wanda Maximoff de Scarlet Witch. Et puis un film qui, comme son titre l'indique, s'appuie beaucoup sur les idées du multivers. Il a été décrit comme le premier film d'horreur du MCU, horreur très légère, hein, mais il y a des éléments, et puis Sam Raimi, c'est un petit peu un truc qu'il affectionne particulièrement. Donc voilà, phase 4 du MCU qui est dans son milieu, on va dire. Sans spoiler, qu'est-ce que tu as pensé du film en quelques minutes?
Alors moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré.
D'accord.
Ah ouais, vraiment. C'est vraiment assez haut dans mon classement à moi du MCU. Alors, il y a deux choses qui se confrontent un peu. Donc, effectivement, pour moi, c'est vraiment un peu une espèce de symbiose entre Marvel, donc la formule un peu classique avec un scénario et une écriture finalement pas extraordinaire, quoi. Enfin, c'est assez convenu, mais habillé là pour le coup de Sam Raimi et je trouve que ça transpire vraiment, sa présence sur le projet transpire quasiment tout le temps. Je trouve que c'est un film qui a plein d'idées visuelles, d'idées conceptuelles. Et vraiment, ouais, moi, j'ai vraiment adoré moi, tout l'aspect justement horreur, tout ce qu'il en fait. Alors, c'est beaucoup d'autoréférences au cinéma de Sam Raimi. Voilà, et c'est pas le surplus de fanservice à un moment du film qui m'a gâché le plaisir. Donc moi j'ai passé vraiment un super moment, j'ai trop envie d'y retourner. Et voilà.
D'accord.
Ouais.
Ok.
Alors Sam Raimi, Patrick, raconte-nous.
Non, alors d'abord, ouais. Sam Raimi, je dois avouer que j'ai été assez agréablement surpris parce que il fait pas trop de Sam Raimi. On a un ou deux plans quand même où on a le truc comme on le faisait dans les années 80 quand on allait au festival. Pardon ?
Tu parles de son travelling qui refait souvent, non ?
Non, pas le travelling. Ouais. Ça peut arriver, genre il y a un truc qui se passe, le zoom sur le visage. Pas tellement ça, mais surtout les caméras subjectives des monstres qui sont en train d'essayer de te mordre le visage là, tu vois. Et ça fait hyper Festival du film fantastique de Paris en 92, tu vois, avec je sais pas Toxic Avengers et bon, bref, cette époque-là. Mais c'est très, très minime. Moi, j'ai trouvé, et j'ai lu, peut-être que j'ai mal vu le film, c'est possible, parce que j'ai beaucoup vu de commentaires de gens qui disent « Oh, la personnalité de Sam Raimi qui transpire dans ce film, c'est incroyable, tout ce qu'on aime de Raimi et tout. » Et moi, j'ai vraiment trouvé que c'était qu'il s'exprimait pas du tout en tant que réalisateur, qu'au contraire, il s'effaçait complètement derrière la formule Marvel. Alors, une formule un peu orientée, on va dire, un mini-horreur, mais qu'il était, je sais pas, comparable à des réals comme, merde, comment il s'appelle celui de Ant-Man, ou tu vois, un petit peu des Yes Men, qui font de la formule Marvel, ce qui n'est pas mauvais, hein, je veux dire, c'est l'unité des formules Marvel, mais il y en a quelques-uns qui réussissent à imprimer vraiment leurs pattes, genre on pense à Taika Waititi avec Thor 3, bien sûr les Russo qui ont une identité visuelle qui est très claire dans tous les films qu'ils ont réalisés pour Marvel, un petit peu plus désaturé, un petit peu plus, comment dire, calme, sombre, enfin, pas sombre, mais un petit peu plus posé, et oui, c'est pas aussi coloré, acidulé. Là, j'ai trouvé que Sam Raimi était pas très très présent dans ce film. Bon, ce qui moi me dérange pas plus que ça, hein. Au contraire, peut-être même. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un film Marvel à formule Marvel. Et au-delà de ça, est-ce que je l'ai aimé? Je dirais, j'ai été très neutre, quoi. Je l'ai pas aimé. Je ne l'ai pas adoré, et je trouve qu'il s'inscrit encore une fois dans la tendance de ce qu'on critique sur Marvel, et qui d'habitude ne me dérange pas parce que j'y trouve d'autres choses, mais c'est des films un petit peu sans grande saveur, ou comment dire, c'est-à-dire qu'un film, si on prend une analogie avec des couleurs, des trucs avec Wanda, WandaVision, tu vois, c'est, ils se disent on va faire un truc rouge. Ok, on fait rouge et ça va être super rouge et l'ambiance va être comme ça, on va avoir ce type de narration et puis c'est cette idée qu'on va explorer avec elle crée un monde, machin. Le film, le premier Doctor Strange, on dit, je sais pas, c'est jaune. Et tu vois, on va explorer le monde mystique avec des univers un petit peu différents dont les règles fonctionnent différemment. Et puis, on va trouver des visuels qui vont te faire complètement triper. Et ça va être un trip, ce film. Ça va être un trip. OK. Là, ce qu'on a, c'est, ils se sont dit, bon, on va mettre alors un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, on va rajouter du vert. Et puis, au bout du compte, tu vois, t'as une sorte de gloubi-boulga marron qui est sans saveur, sans saveur appuyée, tu vois. Et un exemple, je vais pas partir dans les spoilers, on ira un petit peu plus tout à l'heure, mais dans les pouvoirs, je trouve que une bonne exploitation de films de super-héros, la manière dont on exploite les pouvoirs, c'est hyper important. Tu vois, c'est un truc qui donne la personnalité au film, surtout un film d'action, généralement, c'est sur ça que c'est basé, avec une tonalité spécifique, mais La définition des pouvoirs du super-héros, ça fait partie du plaisir du truc, enfin, c'est assez clair. Là, leur pouvoir, alors au lieu d'exploiter Wanda Maximoff qui peut réécrire la réalité, ce qu'on avait beaucoup vu dans WandaVision, tu vois, c'était ça le principe du truc, et il y aurait eu des moyens de l'exploiter dans le film, bah non, Wanda, ce qu'elle fait, c'est bah là, de la télékinésie, et puis elle envoie des boules de laser rouge, et voilà, c'est ce qu'elle fait.
Doctor Strange, il y a plein de choses quand même.
Doctor Strange, on en reparlera après, mais... ouais, on va en reparler. Mais Doctor Strange, bah pareil, il a ses boucliers jaunes et puis il envoie des grands câbles laser, tu vois, c'est des épées laser en fouet. Puis il attrape les trucs et puis il fait de la télékinésie. C'est vraiment les deux, ces gens. Alors je sais que c'est sorcière et mage, mais ces gens, comment on explique leur pouvoir? Ah, c'est de la magie, tu vois. C'est de la magie. Ils font ce qu'ils veulent. Ils pensent à un truc et puis ils le font. Et il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de logique interne, il n'y a pas de... Et du coup, l'ensemble, c'est de l'action non-stop. Il y a très, très peu de temps pour réfléchir à ce qui se passe dans l'histoire. Le sujet de l'histoire, c'est un MacGuffin qui est complètement là pour faire avancer le sujet, mais qui n'a pas d'importance au-delà de ça. Et donc, au final, tu te retrouves avec un truc que tu suis sans être impliqué, je trouve. Et s'il y a quelques idées, je ne vais pas dire que tout est mauvais, hein, vraiment, moi, le film, je ne l'ai pas détesté. Je le trouve juste, bon, neutre, quoi. Neutre. Il est, et peut-être qu'il faudrait que je le revoie, parce que je veux mentionner un truc aussi. J'ai revu Spider-Man 3, Spider-Man No Way Home. Je l'ai revu il y a quelques jours avec ma femme. Et je l'ai beaucoup moins détesté que la première fois. beaucoup.
Toi aussi,
moins.
Alors.
Ah ouais, toi aussi. C'est marrant. Peut-être parce que je savais à quoi m'attendre. Je savais qu'il y aurait toutes ces caméos à foison et tout. Et au final, je me dis, bon, bah, ok, ça se laisse regarder, quoi. Voilà, c'est pas le meilleur film, c'est pas le pire. Ça se laisse regarder. Et celui-là, c'est un petit peu cet esprit. Alors peut-être que si je le revois, je me dirai « Ah non, en fait, c'est sympa, tu vois, parce que je monte d'un cran à chaque fois que je les revois, ces films-là. » Mais là, mon impression, c'est que...
C'est marrant parce que, tu vois, juste pour revenir sur les pouvoirs, moi, j'ai vraiment ressenti l'exact inverse. Parce que jusqu'à présent, Doctor Strange, c'était toujours le même pouvoir. Donc c'était 1, les portails, 2, le bouclier jaune, 3, le fouet. Mmh. Et Wanda, c'était... jusqu'à WandaVision, c'était les boules, les boules violettes de magie, de télékinésie, etc. Mmh. Et là, je trouve qu'ils ont justement étoffé leur panoplie de façon assez dingue.
On peut en parler dans la partie spoiler, si tu veux, pour parler etc. précisément.
Et donc, ouais, on en reparlera juste après, mais ça, je trouve ça assez étrange que tu aies justement eu l'impression que ça soit des trucs un peu plats comme ça. Mais juste pour revenir rapidement, sans spoiler... sur le global du film, ouais, je suis assez d'accord en termes de structure, le MacGuffin, etc. C'est du classique, quoi. Hein, même si il y a des idées, etc. Et pour Sam Raimi, je pense qu'il y a deux aspects qui se confrontent. Il y a effectivement le côté, ça reste un Marvel assez classique. Mais en fait, Sam Raimi, il arrive à amener deux choses. Donc déjà, il y a ses propres références à lui. Donc, que ce soit dans les plans, dans certaines situations, tu retrouves tu retrouves un tout petit peu de... Tu as des clins d'œil à Spider-Man, tu retrouves... des thématiques d'horreur qui lui sont chères à lui, tu retrouves du drag me to hell à fond sur certaines séquences, etc. Et en fait,
faut qu'on en parle dans la partie spoiler parce que peut-être que j'ai pas la culture cinématographique pour tout voir.
Et c'est vrai que si tu sépares certaines séquences, il y a des séquences, tu sens qu'elles ont été droppées par Marvel en fait au milieu de son film. Et bon, c'est pas forcément trop gênant dans le flow, mais effectivement, il y a parfois des problèmes de direction artistique sur certains moments. Et qui peut brouiller un peu le global et rendre le truc un peu brouillon, mais effectivement on en reparlera. Mais je trouve que globalement Sam Raimi arrive à se réapproprier un petit peu ça à chaque fois et arrive à en faire un truc qui reste intéressant in fine, quoi. Voilà.
Écoute, je suis tout à fait ouvert à l'idée que j'ai été, je sais pas, un petit peu grognon en le voyant et je vais regarder des vidéos d'explications de machin et écouter des podcasts sur le sujet pour peut-être me re-hyper un peu. Mais la première étape, ça sera du coup que tu essayes de me convaincre de la qualité du film dans la partie spoiler qu'on a laissée un petit peu plus longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire effectivement. Donc on se lance dans la partie spoiler de Doctor Strange, c'est In the Multiverse of Madness c'est In the Multiverse of Madness.
Ouais.
On y va du coup tout de suite. Spoiler, 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 spoiler. Johan,
je ne sais même pas par où commencer, tu vois. Ouais. En introduction, il y a un truc que je trouve marrant, c'est qu'on a à nouveau, finalement, comme dans Moon Knight, des acteurs qui doivent se jouer eux-mêmes dans différents états, soit psychologiques, soit différentes versions d'eux-mêmes. Et tu vois, quand je voyais ça, je me disais, mais je trouvais ça largement au-dessus de ce que propose Oscar Isaac, quoi. Je trouve Cumberbatch vraiment excellent dans toutes ces versions qui sont très identifiables à chaque fois. Wanda aussi, c'est un peu pareil.
Et bon, moins
Wanda,
caricaturaux.
C'est ça.
C'est vrai
c'est plus subtil, quoi.
Oscar Isaac, il y arrive très clairement à faire des personnalités différentes. Mais quand t'as un accent et une personnalité aussi prononcée, genre le super timide geek et le soldat d'élite, oui, clairement, c'est facile à montrer deux persos différents, quoi. Là, c'est beaucoup plus subtil.
Donc voilà, donc il y a cet aspect-là. Alors moi, on peut commencer par là, effectivement. Donc on prend tout de suite à l'action. Donc ça démarre vraiment. vraiment au milieu de l'action, et on découvre tout de suite ce nouveau personnage qui est assez effacé quand même dans le film de America Chavez.
C'est un MacGuffin, tu vois, ça aurait pu être une pierre d'infini.
mais je trouve qu'elle s'en tire très bien, l'actrice. Je suis assez curieux de la revoir, mais effectivement, je trouve que c'est un peu dommage qu'elle ait eu ce rôle si mineur. Il y a un double MacGuffin, parce qu'il y a elle, mais il y a aussi le fameux livre de Vishanti qu'on va poursuivre tout du long pour pas pour pas grand chose. Mais ouais, effectivement, par où commencer? On va avoir tout de suite ce Strange d'une autre dimension. Et là, l'action va être non-stop.
Je sais pas si
sur ce début-là. Oui, c'est vrai que c'est
tout le
film. Il n'y a
quasiment pas de moment où il n'y a pas d'action, tu vois. C'est quasiment pas.
Vas-y. Ouais, j'allais dire, c'est que. Toi, tu penses que ça porte préjudice, ce parti pris d'action? Parce qu'en fait, ça varie entre effectivement de l'action pure, classique combat, à une action de course-poursuite, un peu horreur. Alors, il y a différentes tonalités d'horreur qui vont balayer un peu le film. Toi, t'en penses quoi? Parce que c'est assez notable. Hein. Je sais pas si on a d'autres Marvel qui sont aussi intenses en fait en action, parce que c'est vrai que ça s'arrête jamais quoi.
Bah, pour moi, c'est un échec de la réalisation et du film de faire que de l'action, parce que du coup, on n'a pas de temps pour s'investir vraiment dans les personnages. America Chavez, on a vraiment une scène minime avec ses mères pour construire la personnalité. Et bon, bah, clairement, elle n'a pas le temps de se développer du tout. Elle est prise, je te dis, ça pourrait être le pendentif de Carguly, et ça aurait été le pendentif qui permet de voyager dans les dimensions. Et voilà, ça aurait été exactement pareil. Bon, il se trouve que c'est une personne, donc très bien. Wanda, on ressent, mais pas du tout, sa détresse et son désespoir, et ils le disent, mais on voit que elle a été infectée par l'essence démoniaque du Darkhold, et c'est pour ça qu'elle est tellement méchante. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir un moyen dans le film de comprendre sa détresse. À la limite, ça s'explique un tout petit peu par WandaVision, mais on était plus, tu vois, on la laisse à la fin de WandaVision. Elle n'est pas démoniaque, donc l'explication, c'est elle a lu le Darkhold. Ok, d'accord, ça tient, mais c'est très faible. Moi, j'aurais préféré qu'on ressente plus que juste le rêve de ses enfants, qu'on ressente cette détresse, parce que là, ça fait cliché, quoi. Tu vois, c'est en plus j'ai un très léger. Hein, je vais pas me transformer en social justice warrior, mais un très léger problème avec l'idée que, tu vois, c'est la femme qui recherche à tout prix son identité de mère et qui, du coup, devient hystérique et qu'on décrit comme une sorcière. Tu vois, je sais que tout s'explique dans le truc, mais ça fait quand même appel à énormément de choses de l'histoire et de la société. Qui me semble pas ultra habile. Alors, ça me dérange pas, hein, tu vois, c'est pas non plus... C'est pas que je te dis « Ah, quelle honte, machin !» Mais c'est juste « Ok, bon, c'est un peu... C'est pas hyper... » Si on avait compris, vraiment, si on avait plongé dans sa psyché, son désespoir d'avoir perdu j'allais dire l'homme qu'elle aime, l'androïde qu'elle aime, et ses enfants invoqués magiquement du plan des démons, tu vois, si on avait compris son désespoir, ok, mais là, c'est juste que elle arrive, Doctor Strange arrive chez elle, et c'est très très beau, et on comprend très bien ce qui se passe, et puis tout à coup, je te montre quel est mon vrai univers. Et c'est genre, en fait, t'es méchante. Ah, ok, d'accord, c'est écrit partout autour de toi. Genre, c'est limite, tu sais, dans la scène coupée d'un des films DC où t'as le Joker de... C'était Jared Leto non, je sais plus qui c'était qui le jouait, mais qui a, genre, gravé Derange sur son front. Genre, t'as pas besoin...
C'est Leto, ouais.
T'as pas besoin d'écrire sur ton front Derange, c'est ton jeu qui va montrer ça. Bah là, c'est un peu pareil. T'as pas besoin de montrer toutes les le orchard, tous les pommiers morts pour dire je suis en fait méchante. Bon, ok, bref, je vais pas passer deux heures.
Tu sais quoi, je suis super en phase avec toi sur tout ce que tu viens de dire en fait. C'est-à-dire effectivement, moi aussi j'ai pensé à cette histoire de caractérisation de mère. Pour Wanda, et c'est particulier parce que ça c'est au cœur en fait de la résolution, c'est au cœur finalement de la résolution des problèmes, parce que c'est justement cet aspect-là qui est utilisé pour la calmer à la toute fin, et qui va faire qu'elle va se sacrifier parce qu'elle a pas, elle peut pas avoir d'enfant, du coup autant mourir quoi. Enfin c'est un petit peu ça quoi hein, à la fin. Et c'est assez, moi aussi ça m'a un petit peu dérangé, on va dire. Bon c'est pas comme tu le dis hein, c'est pas un scandale, mais bon ça m'a fait un peu soupirer. Et ouais, et tout ce début de, on l'amène à Vanda, on va voir Vanda et en fait Vanda, ah si en fait je suis méchante. Ouais, carrément. Et on sent qu'ils ont pas le time quoi. C'est vite revenir à l'action, et donc toutes ces scènes d'exposition-là, globalement, sont soit ratées, soit complètement ratées. Et la scène dans le champ, elle est vraiment bizarre, hein, parce qu'il n'y avait pas de raison particulière, comme tu le dis, à faire qu'elle vit, en fait, dans cette espèce de décharge comme ça. Et ça, c'est assez étrange et intéressant, c'est que, du coup, WandaVision, la série, devient finalement la première série vraiment importante en termes de suivi des films du MCU, parce que quelqu'un qui n'a pas vu WandaVision a quitté une Wanda à la fin de Endgame, et
Ouais,
c'est
qui est endeuillé, mais en
ça
fait, qui est pas.
et puis cette histoire d'enfant, c'est quand même servi comme si on était déjà au courant, et pourquoi pas hein, ça, finalement c'est le MCU, c'est comme ça. Mais du coup j'ai l'impression que c'est une des premières fois où une autre œuvre du MCU est quand même aussi importante pour comprendre un personnage quoi.
Bah, je pense que ça va arriver aussi avec Captain America 4 quand il arrivera. Bah, tu vois, il y a tout un parcours pour Sam Wilson qu'on n'aura peut-être pas expliqué dans le film. Bon, et pareil, je veux dire, c'est le désespoir machin, et on dit, ah bah c'est le Darkhold qui l'a corrompu, et même ça, on n'a pas le. On ne le perçoit pas. C'est juste dit, tu vois, c'est de l'exposition très rapide. C'est genre, ah, c'est le Darkhold, regarde, elle a les doigts noirs, donc forcément, tu vois, elle est corrompue. Ok, bon, je trouve ça un peu paresseux, un peu pas convaincant, quoi. Mais après ça, il y a plein de scènes d'action qui sont. La scène d'action du début avec les démons qu'elle envoie pour pourchasser un Docteur Strange d'un autre univers, ok, ça marche un peu, tu vois, c'est. Mais. Bah, on a plein de pouvoirs. C'est genre, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, il fait de la magie. Ok, il attrape le truc, il balance des machins. Ah, mais c'est de
Ah
la
mais du
magie,
coup,
ok.
tu vois, du coup, pour moi, ça apporte vraiment de la variété dans la panoplie de Strange, quoi. C'est-à-dire qu'il
Ouais, mais il
invoque,
n'y a plus
il
de
invoque lui
règles.
aussi des choses.
Mais du coup, il
Bah,
n'y a
c'est de
plus
la
de règles.
magie, quand même, quoi.
Bah
Tu vois,
oui,
justement, moi, je me
mais dans
disais,
le
OK, ils font de
premier.
la magie, mais ils ont pas d'imagination, les mecs, quoi. Ils font
Non,
toujours
mais
les
dans le
mêmes.
premier, je trouvais que c'était beaucoup plus cohérent. Et c'est pas qu'il n'y avait pas de nouveaux pouvoirs, mais il y avait une sorte de cohérence, ne serait-ce que visuelle, tu vois, de sensation. Il y avait un truc dans le premier qui fonctionnait avec cette magie. Bon, peut-être que c'est juste moi, hein, peut-être que tout le monde va te dire, non, en fait, ça va, c'est de la magie, donc tout s'explique. Mais moi, j'ai vraiment. Par exemple, avec Wanda, quand elle vient attaquer. C'est pas Kunlun, c'est l'autre. C'est pas Taj Mahal.
Capitaine
Ouais, voilà.
Partage.
Merde, tu peux redire, j'ai enlevé mon casque avant.
Capitaine
Et là, je t'ai coupé. Ok, un, deux,
Partage.
trois. Camartage, ok. Mais oui, donc, c'est pas le Taj Mahal et c'est pas Kunlun, c'est Camartage. Et tu vois, elle vient l'attaquer. Tu pourrais te dire, ne serait-ce que quand elle va chuchoter à l'oreille des gens qui déploient le grand bouclier, elle aurait pu, genre, je sais pas, réécrire un peu leur réalité à eux. Pas juste venir chuchoter et dire. Ah, oh, il faut que tu t'en ailles parce que je suis méchante. C'est pas que ça marche pas, c'est juste que c'est paresseux, c'est pas très inventif. Et qu'est-ce qu'elle fait du coup? Ah ben on fait un grand bouclier et puis on balance des gros lasers dessus. Ah, oh, on va réussir à casser le bouclier. Non, non, non. Et puis il s'enfuit ensuite et oh non, elle a réussi à casser notre bouclier. Vite, vite, il faut qu'on parte dans le. Tu vois, il y a
Mais tu
tout.
vois, alors justement, alors là pour moi, justement, alors cette attaque-là, on est dans du pur Marvel en fait, hein, c'est-à-dire que bah voilà, les pouvoirs c'est des lasers, là c'est une grosse guerre, etc. Mais justement, je trouve que bah, juste après, on a un peu de la réop. C'est là où je vois du Sam Raimi juste après, où eh bah, t'as cette histoire de course-poursuite justement dans Camartage, où ils vont essayer de s'isoler. Où tu vas avoir la réalisation qui va basculer vers des gimmicks un petit peu de films d'horreur, de suspense, avec le jeu des miroirs, tu vois comment elle va éliminer les autres sorciers les uns après les autres, sortir du miroir de façon désarticulée, etc.
À la limite,
C'est là où moi, justement, je commence à me dire, ok, ça c'est cool.
Enfermé dans la Mirror Dimension, et puis du coup, elle utilise des miroirs, enfin des réflexions pour s'en sortir. Ok, bon, pourquoi pas. Ok, ça, c'est je te le concède, je le conçois, c'est sympathique. Bon, ok. Après ça, je sais même plus ce qui se passe dans le film après qu'elle soit... Il s'enfuit, c'est ça ? Il s'enfuit dans une autre dimension parce que...
Ouais, c'est là où ils sont embarqués dans l'autre dimension à cause de la peur d'América Chavez.
Mm-hmm. Et ils traversent plein de dimensions différentes.
Ouais, un peu à la Ratchet & Clank, là, la séquence.
C'est un peu ça. Là encore... J'aurais aimé qu'on passe un tout petit peu plus de temps dans quelques-unes de ces dimensions. Mmh. Parce que là, c'est vraiment chaque dimension, c'est 2 secondes, même pas. Et il y a des idées marrantes, mais... Et je dis pas qu'on aurait dû passer des dimensions dans des trucs inexplicables, genre dimension où on est de la peinture. Je dis pas ça. Mais je sais pas, un tout petit peu plus. Bon, bref, c'est un détail.
Je suis d'accord, parce qu'effectivement, finalement, le multivers se résume grosso modo à 2 dimensions, en fait, dans Multiverse of Madness.
Ouais. Peut-être la troisième où il dégage après le. Tu vois, où il y a le très méchant Doctor Strange.
Oui.
Il a tué tous les autres Doctor Strange.
Oui. C'est vrai.
Bon. On arrive dans l'autre dimension. Et là, on a effectivement un moment un petit peu Sam Raimi avec le passage obligé. Merde, j'ai oublié. Son nom, comment il s'appelle, le caméo de...
Bruce Campbell.
Bruce Campbell, merci. Bon, quelle honte. J'aurais pu m'en passer dessus, là, franchement.
Ouais, mais après, moi, je suis jamais fan des caméos. Hein. C'est-à-dire que si tu connais pas Bruce Campbell, en fait, et que tu vois la scène, tu te dis qu'il y a un caméo que tu comprends pas, en fait.
Et ça, pour moi, ça
a tendance à m'agacer, quoi. Quand on arrive à des séquences de ce type-là, quoi.
La partie dans cette dimension, pourquoi pas, je trouve ça, je trouve à la limite la partie du, c'est la partie du film que j'ai le plus apprécié, parce que tu vois les comme je disais les gloubi-boulga de démons à tentacules, c'est pas Shub-Niggurath, je sais plus comment il s'appelle,
Shub-Niggurath,
dans le MCU, je crois que c'est Shub-Niggurath, mais bref.
Ouais, il s'appelle différemment.
Ouais. Mm. Et bon, tu vois, toutes ces scènes-là, c'est de l'action sans enjeu. La scène où on découvre, pour le coup, un autre univers, avec des tonnes de fanservice, c'est peut-être ce qui m'a le moins déplu, même ça m'a assez plu, j'ai trouvé que ça fonctionnait. J'ai l'impression que toi, tu disais, c'était...
L'arrivée dans le monde, ça m'a fait un peu sourire. J'ai beaucoup aimé l'histoire du feu rouge, enfin, ce genre de choses-là. J'adore le Mordo.
Tu vois, c'est un peu inventif tout de suite. Un tout petit peu, mais...
Ouais, c'est ça. J'adore le Mordo, en fait, qui les accueille, etc. Enfin, très très bonne première impression. Et après, malheureusement, après ce moment-là, ils vont se faire capturer, là. Mmh. Et là, ça va devenir un truc un petit peu... un petit peu, je sais pas, jeu vidéo. Enfin, c'est un peu fade, quoi. Leur locaux, là, aux Illuminati, c'est tout. Enfin, c'est un hôpital. Et puis, eux, ils ont une salle de trône toute vide où ils trônent là-dessus. Tu sais pas trop pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison que. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils s'aligneraient ici.
Audiences, tu vois, tu amènes l'accusé devant leur trône. Et puis, eux, ils décident, ils jugent.
Ouais, je trouvais ça too much. Et puis, effectivement, on ramène des gens que je n'avais pas envie de voir dans le MCU. Donc, forcément, ça ne m'a pas... Je continue à penser la même chose. Donc, on a Professeur Xavier qui arrive avec 3 notes du générique de X-Men de dessin animé là, des années 90. On a Flèche Noire, qu'on espérait ne plus jamais revoir tous de notre vie, je suppose. En tout cas, moi.
Je pense que beaucoup de gens ne savent pas d'où il vient.
Évidemment.
Il y a eu une série, je ne sais même plus sur quelle chaîne,
Inhumans.
Inhumans, merci, putain. Donc, une série Inhumans, effectivement, avec lui, dont j'ai regardé 2 épisodes, je crois, et qui était tellement mauvaise que... Enfin, bref, c'était lamentable. Mais c'était lui, et c'était cet acteur. Et puis, le dernier, c'est donc Reed Richards, des 4 Fantastiques, de la deuxième série des 4 Fantastiques.
Non, c'est...
C'est du premier ? Je me souviens même plus.
C'est de aucun. Je crois qu'il a jamais joué...
Mais si, c'était lui dans... Attends.
Non, c'était le mec de The Office.
Oui.
C'est Kravinsky. Pour moi, il a jamais joué de...
Ah, peut-être que je me trompe alors. Peut-être que je me trompe. Ok. Mais parce que il y avait une campagne de genre Twitter pour dire que c'était lui qui devait être.
C'est un fan casting, je crois en fait. Ouais, les gens et.
Ah non, mais t'as raison. C'était pas du tout lui dans les autres films. Autant pour moi. Pardon. Mais oui, donc c'est un petit peu un fan casting. Il est très bien dans le truc.
Ouais.
Ça marche. Et c'est vraiment du caméo. Moi, j'ai été quand même... Tu vois, quand ils sont capturés et qu'il dit... tu le voyais un petit peu venir, mais il dit « Vous allez donc devoir venir devant les Illuminati. » Là, j'étais un petit peu foufou, quoi. Parce que... on n'a pas dit qu'il y avait le Captain Marvel noir aussi, qui était bon, juste un Captain Marvel, quoi. Je ne sais pas si elle a une identité dans les comics, cette version de Captain Marvel. Mais bon, tu vois, on voit les Ultrons auxquels personne ne fait référence. C'est cool. C'est juste, ils sont là, on comprend que c'est un autre univers et puis ils ont utilisé cette technologie. Ok, c'est très bien. Et puis quand ils disent effectivement les Illuminati, moi j'étais tout, on va voir les Illuminati. et je trouve que ça passe avec Captain Carter et machin. Ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, ils se font massacrer en deux secondes, quoi. Alors, je comprends que c'est Scarlet Witch et qu'elle est super puissante et que c'est un Omega Level mutant dans les comics ou ça. Mais dans n'importe quel autre film Marvel, ces personnes-là auraient trouvé des moyens de se battre mieux contre Scarlet Witch. Et du coup, et même, tu vois, Captain Carter, elle fait rien. Elle balance son bouclier deux fois. Alors oui, elle réussit à la toucher, mais ils n'ont pas le temps. C'est normal, c'est une petite caméo et ça doit être expédié en deux secondes. Ok, mais du coup, c'est un peu un petit.
Ouais,
peu...
j'ai adoré, alors. Tu vois,
le
c'est marrant.
On est opposés. Ouais, j'ai bien aimé. C'est juste que c'était un peu trop rapide. Mais toi, t'as adoré, du coup.
Pour moi, c'était. Bah oui, tu sais, c'est. Puis, c'est... Alors, non, j'ai failli spoiler autre chose, donc je vais pas le dire. Mais voilà, elle arrive et puis elle dégomme tout le monde de façon affreuse. Parce que c'est vraiment affreux ce qui leur arrive, quoi. Bah, justement, elle réécrit la réalité pour Flèche Noire et sa bouche, qui se met à crier. Et c'est. Ouais. Il s'annule lui-même son cerveau, machin. Donc, alors oui, je suis d'accord, hein, on aurait peut-être envie de les voir plus, etc. Mais moi, j'aime bien cette idée de elle débarque et elle est trop puissante. De toute façon, j'ai déjà dit, hein, j'adore voir Wanda ultra puissante comme ça. Donc, non, moi, j'étais vraiment, vraiment ravi. Ravi aussi qu'elle défonce Captain Marvel parce que, tu sais, je suis team Wanda. Je pense que Wanda est plus fort que Captain Marvel. Et c'était la preuve, Patrick. J'avais raison.
Alors, elle est plus forte que ce Captain Marvel-là. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, on a une course-poursuite ultra flippante juste derrière à nouveau. Et en fait je pense que c'est ça, moi, qui a marché sur moi. C'est toutes ces séquences
d'angoisse.
Un peu d'horreur où vraiment on a peur. On a peur de ce personnage-là, quoi. C'est-à-dire que. Et puis, on l'a vu faire des trucs affreux. Bon, on sait hein, au fond de nous qu'il n'arrivera rien aux personnages principaux de notre réalité du MCU à nous. Mais du coup, tu vois, c'est le Marvel aussi un peu le plus violent, quoi, où on a des impacts de pouvoir sur des corps humains, etc., qui sont du coup un peu plus réalistes que ce dont on a l'habitude. Et moi, j'avais peur pour mes personnages, et du coup, j'étais un petit peu dans cette ambiance-là, un petit peu horrifique, avec cette Wanda, justement, elle est blessée, elle boite, elle est en sang, elle a le visage marqué, et machin, et tout à coup on est dans, je sais pas, dans Carrie ou dans des trucs un peu comme ça, et c'est ça en fait qui a marché suffisamment bien en fait pour que tout le reste que je peux trouver où je suis d'accord, où c'est faible, où c'est pas toujours excellent, fait que moi j'ai ça a vraiment fonctionné en fait au global, quoi, sur moi, quoi.
Il y a quand même, alors un truc quand même, c'est pas le seul, hein, mais un truc que j'ai trouvé assez intéressant, et justement, j'aurais aimé avoir plus de trucs originaux de ce type-là, au lieu de des lasers balancés partout. J'aurais bien aimé, ce qui m'a plu, c'est quand Doctor Strange, du coup, dreamwalk dans son corps sans vie, enfin dans le corps de l'autre Doctor Strange sans vie, et se fait assaillir par les démons. D'ailleurs, entre parenthèses, ça introduit les démons et le monde des morts, et d'une certaine manière, ça nous laisse penser que les vampires, bah, pourquoi pas, tu vois, dans ce type d'univers où les morts peuvent revenir à la vie, je sais pas quoi. Ou en tout cas, il y a des démons, etc. Et donc, il prend son corps sans vie, et il avec l'idée de Christine, il utilise ses esprits et il s'en fait une cape, et tu vois, j'ai trouvé ça intéressant.
J'ai trouvé ça extraordinaire, hein. Visuellement, ce moment où justement il est dompte pour s'en faire une cape et tout ça, avec lui qui est en mort-vivant, etc. Là, j'ai trouvé limite dommage qu'il n'y ait pas plus d'action, on va dire, avec cette forme de Doctor Strange là, mais j'ai trouvé ça visuellement et l'idée même est je trouve extraordinaire, quoi. Ce moment est assez grandiose. D'ailleurs, quand il dreamwalk, j'étais vraiment en mode, mais attends, mais il va dreamwalk où? Parce qu'il y a personne de l'autre côté. J'avais complètement oublié le Doctor Strange qu'ils avaient enterré au début, et j'ai trouvé ça super malin. Effectivement, il y a tout de suite là, assez rapidement, il sait ce qu'il fait. Parce qu'il sait tout de suite qu'il va se faire envahir de ce, t'as vu, de son corps à lui. Donc il y a cette idée de transgression de règles de la magie là, parce que je sais pas toi comment tu l'as interprété, mais il s'adresse à lui directement, quoi. Stephen Strange, tu as brisé l'interdit de posséder un cadavre et machin. C'est super intriguant, moi, ce truc-là m'intrigue beaucoup. Cette séquence-là, je la trouve superbe, quoi. S'envoler avec une cape de
d'âme, de démon, oui.
C'est non, super mais badass, quoi.
Et c'est ça, tu vois, que j'aurais aimé voir, cette inventivité, cette originalité, dans plus du film, parce que dans le premier...
Et t'as pensé quoi du combat de notes de musique? Parce que j'ai trouvé ça vraiment super aussi.
Ah oui, c'était bien.
Aussi,
oui, oui, c'était très bien, c'était très bien. Mais exactement, tu vois, c'est ces trucs-là, que j'aurais aimé voir à la place des autres moments dans le film où c'est des gros lasers. Parce que dans le premier, toutes les scènes, tu disais « Waouh, qu'est-ce que je suis en train de voir ?» De la même manière que, un petit peu dans la scène de combat de notes et dans la scène de domptage des âmes, là, tu te dis « Mais c'est j'ai jamais vu ça, quoi !» Dans le contexte des trucs de super-héros, mais c'était hyper inventif. Et c'est ça qui m'a manqué dans le reste du film, parce que ça reste, on va dire, 10-15% du film où il y a ça. Le reste, bah, c'est quand même hyper classique. Donc, tu comprends un petit peu pourquoi j'ai été underwhelmed. Mais peut-être que quand je le reverrai, je serai un petit peu plus sensible aux aspects, un petit peu carry, poursuite, stressante, machin. Pour conclure, il faut qu'on parle de la scène, des deux scènes post-génériques. Mais sur le personnage de Doctor Strange, tu vois, avec cette exploration en sous-main du fait que bah, il va toujours trop loin, il est toujours un petit peu trop... tu vois, il pense toujours bien faire, mais il fait des choses qu'il devrait pas, et du coup ça fout la merde. C'est intéressant. Lui, ils réussissent à le, comment dire, à le faire quand même avec son personnage, même si on montre qu'il est différent, c'est-à-dire que lui il garde en vue ce qu'il est important de faire, et il sauve l'univers. Mais quand même, on comprend qu'il est allé trop loin avec cette histoire de... Même, tu vois, on a l'impression qu'il réussit à garder le contrôle à la limite, donc ça, c'est pas mal. Le personnage de Wanda, et je vais te poser la question sur tout ça aussi, mais le personnage de Wanda, au final, donc elle se rattrape parce qu'elle se sacrifie. Enfin, elle se sacrifie, on ne sait pas, hein, on peut tout à fait imaginer qu'elle est sous la montagne de Wundagore, tu vois, dans une bulle de protection en stase pendant des années. Ou alors qu'une autre version d'elle pourrait arriver, mais effectivement, la différence entre elle dans cet univers et dans l'autre univers où elle est maman, t'as l'impression que c'est pas la même actrice, quoi. Alors, il y a le jeu de... le maquillage et tout ça qui joue, Mais au-delà de ça, dans le visage, tu sens la vulnérabilité et en même temps la détermination quand elle se relève et qu'elle va voir la Scarlet Witch qui a envahi son univers. Et donc cet aspect, je trouve que ça fonctionne. C'est un peu facile quand elle se rend compte de ce qu'elle est. Tu sais, c'est vraiment « Ah, oh, je me vois dans le regard de mes enfants et donc je comprends que je suis un monstre et donc ça me... » Mais pourquoi pas ? Très bien. Je trouve que ça, c'est une bonne manière de résoudre le truc parce que le deuxième MacGuffin du livre de Vishanti, bah, c'est pas ça qui sauve l'histoire. C'est montrer un moment humain qui fait que plutôt que de forcer par la magie les méchants à devenir gentils ou à les battre, bah là, tu passes par les émotions, je trouve que ça fonctionne. Et puis, le fait que Dr. Strange fasse confiance à America Chavez et qu'elle commence à maîtriser ses pouvoirs, ça fonctionne aussi. C'est encore une fois, tout ça est un peu trop rapide, un petit peu en surface, mais pourquoi pas ? J'ai l'impression, et je veux te poser la question donc, sur tout ça, sur Strange, Wanda et America Chavez, mais en parlant et en t'écoutant, je suis en train de faire remonter le film un petit peu dans mon esprit d'un neutre 10 absolu à peut-être, bon, ok, il y avait des moments sympas quand même, 11-12, pourquoi pas ? Pourquoi pas, tu vois ? Donc peut-être que ça remontera encore un petit peu plus. Mais ouais, donc sur tous ces aspects de résolution psychologique de l'état des personnages, dis-moi ce que t'en as pensé.
Ouais, mais je suis en phase avec ça. J'ai beaucoup aimé, moi, le MacGuffin du livre de Vishanti parce que on l'attend, on se dit, ben voilà, il va finir par y arriver, il va le chercher, et finalement, ça sert strictement à rien, quoi. Finalement, on trouve d'autres solutions. Il n'y a pas que, finalement, la recherche de de l'ogive nucléaire, quoi, de monter en puissance qui va résoudre la chose, et on passe par autre chose, par, en plus, qui c'est même limite, c'est limite, oui, c'est America Chavez qui résout le truc, quoi, parce que c'est elle qui va ouvrir la fameuse dimension, etc.
Ouais. Ça m'a un peu, et... C'est un petit peu comparable à Endgame. Bon, il récupère quand même les pierres de l'infini au final, mais au départ, quand tu arrives dans Endgame, tu te dis, bon, bah, ils vont choper les pierres et tout défaire. Et dans la première scène, ils disent, non, c'est pas comme ça que ça va passer. Alors oui, ils les récupèrent, mais c'est quand même tout un truc différent qui est utilisé. Donc, il y a un petit peu de ça. On dit, bah, c'est comme ça qu'on va le faire, mais en fait, non, on trouve une autre solution, quoi.
Voilà, puis les deux Wanda, ouais, c'est top, quoi, cette confrontation-là, elle marche super bien. Alors oui, ça joue un peu sur le ressort de la mère, de l'image de la mère et de ses enfants, etc. Bon, ça, on l'a déjà évoqué. Et malheureusement, je trouve que cette relation entre elle et ses enfants n'est pas assez construite avant, en fait.
C'est-à-dire que ce truc un petit peu caricatural... C'est pas grave si tu l'utilises, mais il faut le construire un peu. Et là, c'est ça qui est le problème. C'est pas le fait qu'il l'utilise, je trouve, pas tant ça, mais le fait que c'est pas justifié, c'est que ça fait cliché. Donc, mais bon, au final, oui, tu trouves aussi que la confrontation entre les deux et puis le fait qu'elle voit ses enfants avoir peur d'elle, c'est ça qui la... Bah, ça fonctionne, quoi, dans la résolution du film. Tu trouves aussi que ça marche ?
Ouais, ça marche. C'est fonctionnel, c'est pas, j'en tombe pas de ma chaise, mais c'est un peu fonctionnel, quoi. C'était inattendu, hein. Moi, j'étais pas parti là-dessus parce que du coup, bah, il se retrouve sur le mont Ungalore là, au milieu des statues de Cthulhu ou de Thun, je sais pas comment on le prononce.
Cthulhu, ouais.
Cthulhu.
C'est des trucs très. Et c'est marrant d'ailleurs parce que je viens d'y penser, mais c'est des trucs très Lovecraftiens et c'est aussi ce qu'on a dans. Enfin, putain, mais je suis très fatigué. Hein. Mon fils m'a réveillé à 1h du mat et on était réveillé pendant 1h30, donc mon cerveau ne fonctionne pas bien. Mais dans Shang-Chi, c'est aussi Cthulhuien et Cthonien le méchant.
Ouais. Ouais, donc non, du coup, moi, ce final très satisfaisant, et après, on a cette nouvelle héroïne, America Chavez, qui va apprendre la magie. Du coup, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire de ce personnage. Alors du coup, maintenant qu'on a ce personnage qui a des pouvoirs de multivers, je pense que le multivers restera à portée de MCU tant qu'elle sera dans le coin. Parce que du coup, ça serait un peu bizarre en fait de la réexploiter ailleurs sans exploiter ses pouvoirs. Enfin, je trouve ça un petit peu étrange, quoi. S'ils en font juste une magicienne à la Doctor Strange, je verrais pas trop l'intérêt, à vrai dire. Mais je suppose que c'est aussi pour lui donner des fonctions de combat autres que juste donner des coups de poing.
Des coups de poing multiverso.
C'est ça. Et puis après, bah, on va glisser, je pense, vers les scènes post-génériques.
Ouais, juste un truc sur, du coup, sur America Chavez. Je pense qu'effectivement, ils vont la garder dans un coin du MCU parce que tu jettes jamais rien dans les trucs Marvel. Ça peut toujours resservir à un moment. Mais je pense que clairement, on aura un truc du genre non, le multivers, on ne peut pas l'exploiter. Peut-être une dernière fois avec Ant-Man, c'est quoi, Quantumania, qui a été retardé d'ailleurs, ou avancé, je ne sais plus, l'un des deux. Et après, tu vois, ça va être genre, oui, on pourra l'utiliser, il y aura peut-être des petits trucs, des petits éléments parfois, mais je pense qu'ils vont dire, c'est trop dangereux, on ne peut pas l'exploiter, c'est trop le bordel, ça fait des incursions, tout ça, qui était d'ailleurs un event important dans Marvel il n'y a pas longtemps, c'était marrant ce petit, dans les comics, ce petit truc où ils ont réconcilié les deux univers, 616 et... merde, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'ils disent qu'ils ont désigné l'univers du MCU en tant que 616. Parce que normalement, c'est l'univers canonique des comics. Et du coup, le fait que... Bon, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a un chiffre différent, mais du coup, ça veut dire peut-être qu'il y a plusieurs sets de multivers. Bon, non, je m'arrête là. Mais Le fait que America Chavez reste là, bon, c'est pas si surprenant que ça. Je me demande si on va la voir peut-être même en passant dans Miss Marvel, par exemple. Tu vois, c'est une jeune, elle pourrait tout à fait passer à un moment dans Miss Marvel, dire bonjour à Kamala Khan ou un truc comme ça, mais du coup, sans utiliser ses pouvoirs multiversaux.
Ouais, on n'a pas trop évoqué Loki, mais c'est toujours un petit peu complexe parce qu'effectivement, on n'est pas du tout sur du même type de multivers que ce que proposait Loki, quoi. Parce que là, il y a des nouveaux concepts multiversaux qui arrivent justement avec cette histoire de rêve, les rêves qui sont le reflet de nos vies dans les autres multivers. Du coup, si tu arrivais, Patrick, d'être tout nu en clown, eh ben, c'est qu'il y a un univers où tu es tout nu en clown.
Ouais. C'est intéressant, du coup, c'est marrant comme idée, comme concept.
Ouais, mais... alors, je trouve l'idée super, mais du coup, ça tranche un petit peu avec l'idée de la façon dont Loki gérait ça.
Je ne suis pas sûr, c'est qu'il y a des multivers qui sont créés à chaque décision et donc il y en a une infinité. Et donc,
Ouais, mais tu vois, personne rêve qu'il y ait un crocodile et il y a un Loki crocodile.
Bah, enfin,
tu
vois, c'est... Si, peut-être.
Oui, peut-être. Peut-être que Loki rêve qu'il y ait un crocodile.
Bah, ou peut-être qu'il ne rêve pas, c'est juste qu'il y en a un quelque part et tu n'as pas. Tes rêves sont des identités de ton multivers, mais. Ouais. Et puis on ne sait pas ce qu'il rêve, Loki. Mais peut-être que, tu vois, il y a d'autres trucs dont tu ne rêves pas qui sont quand même des identités du multivers. Et entre parenthèses, pour les différentes versions, normalement, enfin dans les comics, Wanda est un être Nexus qui est la même dans tous les univers. Et là, on a l'impression que c'est plutôt America Chavez. Il y en a qu'une dans tous les multivers puisqu'elle ne rêve pas. Ou alors il y a une autre explication, mais puisqu'elle ne rêve jamais, machin. On n'a pas parlé de. Bon, ça viendra peut-être avec la scène post-générique, mais le troisième œil de Doctor Strange qui s'ouvre.
Bah, allons-y.
Ouais. Putain, alors d'abord, c'est super moche. Hein. Je ne sais pas s'il y a un bon moyen de faire un troisième œil. Je ne sais pas si c'est possible. Mais putain, qu'est-ce que c'est moche. Ça fait... c'est pas juste moche parce que c'est genre horrifique, mais j'ai l'impression que c'est mal fait. Et je ne sais pas comment on pourrait bien le faire, mais j'ai l'impression que c'est mal fait.
Ouais, je suis d'accord, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Hein. Ça faisait un rendu un peu bizarre.
Ouais.
Mais bon, bref, c'est assez bizarre. Hein. Ça finit sur cette séquence où il est dans la rue et histoire de douleur, et puis il y a l'œil qui s'ouvre, et fin. Mmh. Et là, moi, je me dis, mais pardon, est-ce qu'on a un Doctor Strange 3 de prévu? Parce que c'est quand qu'on aura la suite, quoi.
C'est clairement, c'est ce qu'ils disent, oui.
Ouais, et puis ouais, du coup, il y a la scène post-générique qui arrive, milieu de générique d'ailleurs, qui arrive juste après.
Entre parenthèses, la fin du film, c'est vraiment... On n'a même pas dit un mot sur Wong, le pauvre, il est tellement effacé que...
J'y ai pensé tout à l'heure, mais bon, c'est un second rôle, il est très actif, c'est chouette de le voir avec ses pouvoirs de sensé suprême.
Ouais.
Mais il n'a pas vraiment d'interaction réelle avec le plot. Hein.
Et puis il abandonne très très vite. Bon, elle va tuer tous ses potes, mais il dit tout, ok, tu peux aller à Wundagore Mountain, c'est là-bas qu'il y a le Darkhold originel.
pas très responsable, hein, pour, pour un sorcier. C'est pas très responsable pour un sorcier suprême, hein, de l'amener.
Il se pose pas de questions morales sur est-ce qu'il vaut mieux sacrifier, tu vois, quand t'es sur le train et qu'il y a un train qui arrive, tu machin.
Tout le multivers ou trois personnes, il choisit trois personnes.
Voilà. En deux secondes en plus. C'est, oh non, c'est bon, ok. Bon, bref. Donc, la scène, et du coup, la fin du film, c'est vraiment. Genre ça s'est fini, j'étais genre encore en train d'essayer de comprendre ce qui s'était passé dans la scène d'avant, où genre, enfin, il y a pas de fin en fait, c'est juste que on conclut, et encore une fois ça s'aligne avec cette idée que le film c'est juste plein de scènes d'action qui s'enchaînent avec très très peu de caractérisation ou de dialogue ou de développement, et c'est vraiment genre on a conclu le problème du Darkhold, hop c'est fini, et c'est genre mais ah oui, ok, donc il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de ce qui se passe après, il n'y a rien. Non, il marche dans la rue, on a vu America Chavez s'entraîner, il marche dans la rue, troisième œil, pof, c'est fini. Ok, d'accord, très bien. Et puis donc, il y a cette scène post-générique avec Cléa, qui est, alors ça revient vers Dormammu, joué par Charlize Theron, ça revient vers, on va dire, Dormammu, c'est un petit peu bizarre toute cette histoire, mais peu importe. Elle vient voir Doctor Strange et elle dit « Ah merde, c'est le bordel !» dans ce qui est visiblement la Dark Dimension avec Dormammu.
Je sais pas si les problèmes sont dans la Dark Dimension.
Ah, parce qu'elle
dit juste « vous avez créé
un... » Il y a une incursion,
Ouais, il y a une incursion. Et après, bah, c'est chez elle, je crois. Donc, c'est juste qu'ils vont discuter... Et on discutait chez elle un petit peu. Mais alors, du coup, moi, c'est pas anodin, hein, parce que du coup, moi, je me suis posé la question s'ils n'étaient pas déjà en train de préparer le. Tu parlais de l'event tout à l'heure, là, de Secret War, ouais, c'est ça. De Secret War, là, où justement, où tu as deux réalités qui vont s'écraser l'une sur l'autre pour fusionner. Mmh. Du coup, je me demande si c'est pas juste ça qui est en train d'être préparé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a
possible,
ça là aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, là, on a une liste longue comme le bras de projets Marvel. Il y en a aucun qui s'appelle Doctor Strange quelque chose, quoi.
Ouais.
Donc, je me dis que la suite de ce qu'on vient de voir là, on la verra probablement dans 5-6 ans, un truc comme ça, quoi.
Ou alors, c'est possiblement un Avengers 4. Qui est basé sur Secret Wars, effectivement, où, je sais pas si on vient de l'expliquer ou pas, mais effectivement, c'est les deux réalités qui se réconcilient avec une incursion, c'est-à-dire qu'il y a littéralement une planète Terre qui apparaît à côté de l'autre, et elles se rentrent l'une dans l'autre, et ça annihile l'une des réalités avec quelques-uns qui s'en trouvent épargnés, parce que les personnages qu'on aime bien dans l'univers qui disparaît, bah, on les garde par un artifice, machin. Donc oui, c'est peut-être tout à fait ça. Il est aussi possible, tu sais, je pensais à Civil War 2. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est Civil War 2 dans les comics.
Alors, je l'ai lu, mais je ne m'en souviens plus.
En fait, c'est c'est pas sur l'acte des super-héros, de l'égalisation des super-héros, c'est sur une personne, Inhuman, qui peut prévoir le futur. Et du coup, il y a Iron Man et Captain Marvel qui se battent pour dire bah, soit on doit l'utiliser pour corriger les choses avant qu'elles n'arrivent, soit on doit pas du tout l'utiliser parce qu'il est, je sais plus, ils veulent même peut-être le tuer ou en tout cas le capturer, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, c'est des probabilités, mais ce n'est pas certain. Et donc, il y a un truc qui se passe là-dessus. Je me demande s'il ne pourrait pas faire ça avec America Chavez. Alors, ça serait dommage parce que c'est encore elle qu'on balade et qu'on utilise, mais ça pourrait être un truc du genre, on doit utiliser le multivers pour faire des trucs, pour trouver des... Ça serait peut-être une répétition de ce film-là, c'est possible. Mais je me demande si ça ne pourrait pas être ça. Mais dans tous les cas, Cléa, donc elle apparaît, et puis Doctor Strange, effectivement, là où deux secondes avant, il avait le troisième œil qui s'ouvrait, et c'était le supplice de sa vie, là il dit mais non j'ai pas peur, parce qu'en plus on fait des références à est-ce que tu as peur machin, etc. On n'a même pas parlé de cette répétition de est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es pas heureux, qui aurait pu être intéressante à explorer aussi, mais je trouve qu'ils explorent pas au-delà de la littéralité du mot qu'ils disent. Mais donc elle dit à moins que tu aies peur, et lui dit mais non j'ai pas peur, et il ouvre son troisième œil, il maîtrise ses nouveaux pouvoirs de sorcier suprême éveillé, enfin même s'il n'est pas le sorcier suprême, et il rentre dans la réalité, dans la Dark Dimension de Cléa Charlize Theron. Ok.
Attends 5 ans.
Ouais, c'est vraiment, c'est-à-dire que généralement les scènes post-génériques, ça, j'ai l'impression que ça peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça fait référence à un truc qui est un petit peu plus palpable. Là, ça sort vraiment de nulle part, un petit peu comme la scène post-générique de Eternals, quoi. C'est genre.
Exactement, ouais, j'allais y venir, quoi. C'est vraiment dans le même genre, quoi, parce que du coup, ça fait référence à des projets dont on n'a pas encore entendu parler, et du coup, et des trucs qui mènent et qui vont loin, quoi. Je veux dire, il y en a. Côté Eternals, c'était, je sais où sont vos potes, on va aller se battre contre des célestials, quoi. Donc tu te dis, waouh, qu'est-ce qui s'y passe? Et là, bah, c'est pareil, quoi. On va retourner dans la maison de Dormammu, alors que là, cette fois-ci, il a plus la pierre du temps, hein, donc bon, il a progressé depuis quand même, mais bon, ça reste la Dark Dimension. et puis, ouais, et là, pour le coup, on sait pas du tout c'est quoi le projet, quoi. Donc, moi, je déteste pas. Je trouve ça super intrigant et je préfère largement ce genre de scène au type de scène qui a suivi, là, la scène qu'on a attendu tout le générique pour voir juste Bruce Campbell dire « bon, bah, le film est fini ».
Entre parenthèses, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a plusieurs fois où dans le film, les personnages regardent directement dans la caméra et regardent le public. Je crois qu'il y a deux fois dans le film et évidemment, à la fin, ben, Bruce Campbell qui dit « c'est fini en regardant directement dans la caméra ». Tu vois, qui casse le quatrième mur, qui est, bon, une scène dont je me serais parfaitement passé, honnêtement. Mais bon, c'est la deuxième scène pour le générique, on s'en fout à la limite. Mais ça me fait penser, effectivement, à ce cassage de quatrième mur dans le film qui est, je sais pas, c'est un petit truc qui n'est pas trop mal trouvé, quoi. Et du coup,
et ben voilà.
On arrive à la fin de cette review de Doctor Strange. Moi, en fait, ça m'a donné envie de le revoir pour voir si je ne serais pas un petit peu plus séduit la deuxième fois comme avec Spider-Man 3. On verra. Ouais. Peut-être qu'on en parlera.
Effectivement, moi, c'est purement les scènes d'action, en fait. Bah, de toute façon, il n'y avait que ça, hein, donc c'est pas difficile. mais du coup, j'ai envie de le revoir. Je le reverrai, je ne sais pas quand, parce que les emplois du temps ne sont pas toujours évidents.
Ouais.
à gérer, mais je le reverrai et puis peut-être que mon avis va se réduire ou s'augmenter. Donc,
Ben moi, je le reverrai quand il sera disponible en VOD, je pense, parce que avant, c'est très compliqué. Mais bon, bah super, merci beaucoup. Un petit peu 1h15 pour parler de tout ça, c'était au moins ce qu'il fallait. Donc merci d'avoir partagé ce moment avec moi, Johan. Si on veut en parler un petit peu plus ou d'autres choses, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet? Alors, du cybernaute,
On peut venir m'en parler sur Twitter à @johant_, et on peut aussi venir m'en parler sur le Discord du Rendez-vous Tech. Où on a un petit channel dédié à l'émission, où vous pouvez venir nous dire que vous avez détesté ou adoré, et on sera ravis d'en discuter avec vous.
C'est le Discord, à vrai dire, même de plus que le Rendez-vous Tech, de tous les podcasts et et d'autres choses, dont le lien est sur notepatrick.com. Vous pourrez retrouver le lien vers ce Discord, et c'est une bande de personnes bien sympathiques, et on parle effectivement de tout ça, de jeux vidéo, de tech, et de plein d'autres choses, et y compris, évidemment, Super Laser Punch et les films et les séries qui y sont associés. Donc, vous pourrez nous retrouver là-bas. Pour ma part, c'est Note Patrick sur tous les réseaux sociaux. Le Rendez-vous Tech pour l'Actu Tech, un autre podcast qui est hebdomadaire. Et le Rendez-vous Jeu, qui est aussi hebdomadaire, pour l'Actu Gaming. C'est deux moments essentiels pour la semaine de ceux qui les écoutent. Ils attendent ces moments avec une impatience absolument non contenue. Donc, je suis sûr que ça pourra vous plaire si vous ne les écoutez pas déjà. Et pour notre part, on se retrouvera dans quelques semaines pour une nouvelle série, peut-être d'ailleurs Everything Everywhere All at Once, qui sort. Ah mais non, mais il sort pas en France.
Ah, moi, il sort pas chez nous.
Merde. Bon, moi je pourrais le voir dans quelques semaines et peut-être qu'on verra. J'en dirai un mot. Et puis sinon, dans quelques semaines avec des nouvelles séries, peut-être Marvel, peut-être d'autres choses. Entre temps, on vous fait de grosses bises et on vous souhaite de passer d'excellents week-ends, des semaines. Voilà. Vivez votre vie aussi bien que vous le pouvez.
Soyez heureux.
Soyez heureux dans votre univers et peut-être dans le multivers. Bisous à tous. Ciao, ciao.
Allez, bye.